Les cours du Collège de France, Wajdi Mouawad, chère l'invention de l'Europe par les langues et les cultures.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes et merci. Merci beaucoup d'être là ce matin. Donc aujourd'hui, on va ouvrir ce cycle de 8 leçons consacrées au verbe de l'écriture dans le cadre de cette chaire Invention de l'Europe par les langues et la culture et les cultures. Ces leçons et les séminaires qui vont suivre chacune d'entre elles auront lieu tous les mardis, donc à compter d'aujourd'hui jusqu'au 8 avril et toujours à la même heure. Et pour cela, je voudrais remercier au passage le professeur Patrick Boucheron qui a bien voulu me céder ce créneau, habituellement le sien. Il m'en veut beaucoup. Et donc, si parmi vous, il y en a aujourd'hui qui sont venus dans l'espoir de l'entendre, sachez que jusqu'au 8 avril, le professeur dispensera ses leçons sur le sexe du pouvoir les mardis, comme à l'accoutumée, mais par ma faute, de 14h à 15h au lieu de 9h à 10h. Alors, déployer sa pensée est toujours un Everest. Alors, j'espère que je saurai être un bon Sherpa lors de cette ascension et que les 8 leçons qui en seront les étapes vous apporteront quelques inspirations, vous ouvriront des horizons, puisqu'il sera beaucoup question de paysages, de chemins, de sentiers, de clairières. Et j'espère surtout qu'elles vous apparaîtront telles que j'aimerais qu'elles soient, c'est-à-dire des échappées poétiques au milieu de l'agitation et le fracas du monde. Ce que je vais tenter de partager au cours de ces leçons me tient particulièrement à cœur. C'est quelque chose qui m'est très intime et donc nécessairement se perd dans les méandres, puisque je n'ai pas l'habitude de les enseigner. Ce sont des choses vraiment fugaces, en apparence, et peut-être pas seulement en apparence, totalement inutiles. Elles sont liées, au fond, au rapport que j'entretiens avec l'écriture. Donc c'est indicible. Ça relève de la rosée. Ça s'évanouit rapidement. Il est probable que ça apparaisse souvent, très souvent même, embrouillé. Si c'est le cas, ça sera ma faute, parce que je n'ai pas l'habitude d'être dans cette position. Alors, si par moment ça devient totalement incompréhensible, ce n'est peut-être pas si grave. Il arrive parfois que la sensation éprouvée soit au fond plus importante que le sens qui est exprimé. Et pour vous dire la vérité, j'aurais aimé vraiment ouvrir cette première leçon par un professoral et impératif. Nous allons à présent commencer. Mais ça commencerait bien mal et devant un tel mensonge, certains se diraient, eh ben, dis donc, ça commence bien. En effet, il suffit de se pencher sur la question pour constater que ce n'est pas au moment où on affirme qu'on commence que ça commence. Au contraire. Quand on dit « on commence », c'est qu'on a déjà presque fini, que tout est joué et qu'il ne reste plus qu'à conclure. Moi, il me reste encore 8 leçons, alors pour ce qui est de conclure. Dire « on commence » est en réalité impossible. Impossible. Car on commence toujours, et sans le savoir, bien longtemps avant ce qu'on déclare être un commencement et qui n'est en fait qu'une révélation de ce qui, des années durant, a cheminé secrètement pour arriver jusqu'à notre conscience et nous fait dire « Ah, mais ça commence !» Par exemple, prenons l'aurore. L'aurore. Bien avant le premier chant de l'oiseau, quand il fait encore une nuit d'encre, bien avant que le moindre signe ne se manifeste, l'aurore a déjà commencé. Elle bruit quelque part dans les confins, elle procède peut-être même à un sacrifice pendant que nous dormons. Un astre qu'on égorge, qui rougira le ciel tout à l'heure, pendant que prix à payer pour que se lève à nouveau le soleil. En tout cas, on ne sait pas ce qui se trame, car ça se trame. Ça se trame dans le sens que ça se tisse. Le tissu de la lumière se fait toujours la nuit et à notre insu. Et quand l'aurore arrive, nous disons « Ah, l'aurore !» Et nous la voyons comme une naissance, mais elle est dans ce commencement déjà depuis une éternité. Au commencement était le verbe, paraît-il. Peut-être. Mais avant le verbe, il y a eu sa rumeur, il y a eu son bruissement. Il a bien fallu que quelque chose le désire pour que ce verbe advienne et se fasse commencement. Si rien ne l'avait désiré, il n'aurait pas accouru. Le désir précède toujours le bruissement, des choses qui se mettent en chemin pour rejoindre le visible. Pareil pour l'aurore, c'est la même chose. Et ce qui est vrai de l'aurore l'est aussi de l'écriture. L'écriture aussi commence dans le désir bien avant que ça n'écrive, bien avant que ça ne sait que ça écrit. Ça écrit déjà avant d'écrire. Et la parole aussi. Pour parler, il faut que ça commence à parler en nous, bien en amont. Bref, ça commence toujours avant que ça ne commence. On ne décrète pas qu'on commence. En revanche, on peut en prendre conscience. Mais il y a toujours un décalage entre l'instant où ça commence et celui où on en prend conscience. Comment on habite ce décalage ? Ce sera le sujet de la prochaine leçon. Mais cet instant est un vertige quand on réalise que quelque chose en nous a commencé, quand ça nous apparaît, quand la prise de conscience se fait, alors on voit la lumière, notre esprit s'éclaire et c'est une épiphanie. Elle peut être dangereuse, cette épiphanie. Elle peut être d'une grande violence quand on réalise que quelque chose en nous a commencé. Elle peut être aveuglante. Il y en a un, je ne le nommerai pas, après des histoires un peu compliquées avec son père et sa mère, il s'est crevé les yeux pour avoir été éclairé trop vite. En fait, c'est comme une tumeur qui se fait jour. Dans l'infiniment petit de la première cellule qui refuse de mourir, aucun signe pour le savoir, pour déceler ce commencement. Pour cela, il faut un symptôme. Le symptôme peut être simple. Pas besoin toujours qu'une peste s'abatte sur une cité et qu'on doive aller à Delphes consulter l'oracle. Non, un grain de beauté suffit. Un grain de beauté suffit et c'est en soi un oracle envoyé par Apollon. Alors si à l'époque antique, le devin était celui qui résolvait l'énigme posée par l'oracle, aujourd'hui, l'oncologue traduit pour le patient l'oracle qu'est le grain de beauté ou la légère bosse à la poitrine. Et lorsqu'au scanner se découvre la vérité de la tumeur, ce qui se découvre, ce n'est pas son commencement, mais au contraire, sa présence qui ne date pas d'hier. Et le décalage peut être dangereux. Ce qui est vrai pour la tumeur est vrai aussi pour l'aurore. Il est vrai aussi pour l'écriture. Nous n'avons accès qu'à leurs symptômes, mais les symptômes apparaissent bien longtemps après l'obscur commencement, toujours. Si les choses suivent des chemins multiples, toutes se trament dans l'ombre. Car oui, ça se trame, ça se tisse, soit pour notre malheur, soit pour notre bonheur, jusqu'au moment où elles apparaissent à la conscience par le truchement d'un scanner pour la tumeur, celui du premier chant d'oiseau pour l'aurore, ou d'une phrase impossible surgit malgré tout au bout du crayon pour l'écriture. On ne décide jamais qu'on commence. Ça commence avant la conscience. Ce n'est donc pas une affaire de volonté. L'entrée dans la lumière se prépare dans l'obscurité. Et l'esprit n'a pas conscience de ce qui est en train de se tramer, car, comme on vient de le dire, ça se trame, dans le sens que ça se tisse, le tissu de l'écriture, comme celui de la lumière, le feu. Ça complote en nous, à notre insu. Il faut savoir ça de soi, que ça complote. Il faut aimer ça en soi, que ça complote. Alors si, pour une raison ou une autre, on tient que je prononce le verbe « commencer », si on insiste, si on veut absolument que pour cette première leçon, que je conjugue ce verbe, alors je l'utiliserai pour dire « nous allons commencer par faire confiance ». Décrétons-le, on commence par faire confiance en ce qui se trame, en ce qui se tisse, car ça se trame, ça se tisse. Ce n'est pas de l'haltérophilie où il faut lever musculairement une charge impossible. Je vais par ma volonté seule inventer une histoire. Là, ça commencerait très mal. Au contraire, il faut laisser faire, que ça se tisse, que ça se trame et faire confiance en l'écriture comme on fait confiance en l'aurore. Le jour se lèvera. L'écriture arrivera, elle surviendra, à n'en pas douter. Il y aura sacrifice, mais l'écriture arrivera, elle arrivera toujours, elle arrive toujours. Lui offrir donc toute notre confiance. N'entretenir aucun lien de méfiance, ni envers l'écriture, ni envers la lumière. Au contraire, à l'écriture, ne poser aucune condition. À ne rien exiger, on obtient tout d'elle. C'est une acharnée, une bosseuse, et si on l'aime, si on ne l'écrase pas sous aucune velléité ou injonction, elle se donne avec le désir presque enfantin de vouloir nous surprendre. On s'assoit, on est là, on gribouille, et tout à coup, une phrase. Et on se demande, mais attends, mais d'où ça sort ? Eh bien, ça fait une éternité que la servante y travaille, à notre insu. On ne sait pas que ça écrit, et des mois plus tard, des années parfois, au hasard des phrases griffonnées sur le coin d'un comptoir, d'un bistrot sans charme, d'une gare froide et humide, en attendant un train qui n'arrive pas, tout à coup, ça apparaît au bout du crayon. La fiction, la narration, l'histoire. Et là, on est abasourdi, on se dit oh, « mais ça commence !» Non, ça ne commence pas, ça nous rejoint enfin. Ça nous rejoint après un très très long voyage. Il faut donc inverser les choses. Nous ne sommes pas le point de départ. Le point de départ des idées, des fulgurances. Nous ne sommes pas le point de départ, nous sommes le point d'arrivée. Nous sommes l'extrémité du chemin, nous sommes le port à atteindre. Jamais la matrice du bruissement, mais nous sommes le destinataire du bruissement. Nous sommes désirés par ce qui écrit en nous. Le travail, la plomberie, la dramaturgie, la structure, l'acharnement, ça c'est après. Avant, ça vient vers nous. C'est pourquoi dire au départ de cette leçon « on va commencer » aurait été de ma part une forme d'ingratitude envers le chemin parcouru dans l'invisible par le bruissement, par le chuchotement et par la rumeur de cette leçon que je suis en train de prononcer devant vous. Elle attendait dans le noir depuis très très longtemps, mais elle était déjà là, sinon 60 000 signes, espace compris par ma propre volonté, auraient été humainement impossibles. L'écrire, concrètement, a exigé de moi de simplement déblayer le chemin pour, l'écrivant, être le premier à la découvrir et la voir apparaître avant de la livrer. Certains connaissent sans doute l'histoire. En face de la chambre d'un enfant, de l'autre côté de la rue, il y a l'atelier d'un sculpteur. Un matin, l'enfant voit un camion livrer au sculpteur un monstrueux bloc de marbre. Le grand rideau métallique de l'atelier s'ouvre, le bloc de marbre pénètre à l'intérieur et puis le rideau se referme. Deux mois durant, l'enfant entend les bruits de marteaux, de burins, parfois l'entrebâillement du rideau de métal, il voit la poussière de marbre échapper. Il entend le cognement, il entend l'acharnement, parfois il voit le sculpteur sortir complètement enduit de poussière blanche, fumer une cigarette avant d'y retourner et puis un matin, ça se termine. Le camion revient, le rideau métallique s'ouvre, l'enfant écarte les rideaux de sa fenêtre et là, sous ses yeux médusés, il voit un immense cheval de marbre. Bouleversé, l'enfant se précipite hors de chez lui, il court vers le sculpteur et lui demande mais comment vous avez fait pour voir qu'il y avait un cheval enfermé dans ce bloc de marbre ? Et l'enfant a raison. Le sculpteur ne décrète pas qu'il sculptera un cheval. Le sculpteur voit le cheval. Et le cheval était là avant le sculpteur, bien longtemps avant. Le cheval était là au moment même où la montagne d'où le bloc de marbre fut extrait a été formée par les mouvements tectoniques de la Terre. Le cheval était là. Bien avant l'apparition de la vie sur Terre, le cheval était là. Bien avant même le surgissement d'un cheval dans l'histoire de l'évolution, eh bien le cheval était là. Il était déjà là quand rien dans l'univers ne pouvait même encore imaginer ce que pouvait être un cheval. Eh bien le cheval était déjà là. C'est ce que le sculpteur libère, c'est ce que le peintre peint, c'est ce que l'écrivain écrit, c'est ce que le compositeur compose, c'est déjà là. Il faut le délivrer et de façon acharnée, développer la vision qui voit à travers la pierre, laisser l'écriture voir à travers nous. De ce travail, on en reparlera à l'occasion des leçons suivantes. En attendant, reparler encore de cela, de la rumeur, du bruissement, l'aurore, et la confiance que cela est chemin. Cela arrive à nous car nous sommes le pont entre l'invisible et le visible. Quelque chose est là, dans notre noir, qui va vers son épiphanie. Cela est avant d'être, et si en effet au commencement était le Verbe, et qu'avant le Verbe il y avait sa rumeur, et que la rumeur n'est que le désir ardent du Verbe d'apparaître pour entrer dans la lumière, alors, de ce désir ardent, on fera précisément le portail pour entrer à l'intérieur de ce domaine que j'ai intitulé « Les verbes de l'écriture ». Poursuivons donc à défaut de commencer. Voici une citation tirée du mode d'existence des objets techniques de Gilbert Simondon. À la page 185, Simondon écrit « Un tracteur dans un garage n'est qu'un objet technique. Quand il est au labour, et s'incline dans son sillon pendant que la terre se verse, il peut être perçu comme beau. tout objet technique, mobile ou fixe, peut avoir son épiphanie esthétique, dans la mesure où il prolonge le monde et s'insère en lui. Fin de la citation. Alors, si c'est vrai d'un tracteur, cela est aussi vrai d'un verbe. Qu'est-ce qu'un verbe, si ce n'est le tracteur d'une phrase ? Et d'entre les verbes, le verbe « être ». Le verbe « être » est en effet un tracteur dans le champ lexical de l'écriture. Il laboure la terre et permet de semer pour que ça pousse, pour que ça soit. Grâce à ce verbe, eh bien, les choses sont, oui. Mais, selon Héraclite d'Éphèse, 500 ans avant notre ère, nature aime se cacher. Nature aime se cacher. En d'autres termes, ce qui va vers la lumière aime l'ombre. Le verbe « aimer » est important. Héraclite n'a pas dit « nature doit se cacher » ou « nature veut se cacher ». Non, il a bien dit « aime se cacher ». Nature donc aime jouer, cache-cache. Loup, y es-tu ? Je mets mon pantalon. Loup, y es-tu ? J'arrive. Eh bien, c'est la même chose. Écriture, y es-tu ? Je mets mon pantalon. En attendant, allez se promener dans le bois pendant que l'écriture n'y est pas. Elle aime se cacher. Être, croître vers la lumière, mais rester dans l'ombre. Lorsque le verbe être sort du garage du quotidien pour entrer dans le labour de la poésie et prolonge le monde, il fait sortir ce qui est dans l'invisible pour le faire apparaître dans le champ du visible, notre conscience. Il lui met sa culotte, il lui met ses chaussettes, sa chemise, son pantalon, ses bottes, et ça le fait arriver. J'arrive ! Il le fait être, apparaissant à notre conscience. Alors on crie, effrayé comme l'enfant, à l'arrivée du loup. Alors ça y est, la comptine est terminée, et l'enfance est passée. Cela peut enfin être, cela, c'est-à-dire l'histoire, c'est-à-dire le récit, l'idée, la narration, le personnage, l'idée d'un spectacle, le projet, ça y est, ça peut être. À présent, donc, c'est possible de commencer. Épiphanie du verbe être, donc, pour aborder cette question du commencement, du pourquoi ça ne commence pas comme on croit que ça commence, du comment ça commence et de qu'est-ce qui commence quand ça commence. Pour simplifier, pour les raisons citées plus haut, je prends la liberté de mettre de côté ce mot impossible de commencer pour lui préférer celui de bruissement, de rumeur, aurore, qui annonce l'écriture, mais qui ne l'est pas encore tout à fait. C'est un moment de naïveté que rien ne doit venir troubler. Il exige une délicatesse, une maîtrise de soi difficile pour nous autres occidentaux et qui consiste, au royaume de Descartes, de retenir l'aigle de la raison pour laisser un peu plus longtemps gambader la proie. Retenir l'aigle dans la seule ambition et de se jeter sur l'intuition pour la décortiquer de ses serres. Oui, mais pourquoi si, pourquoi ça, et qu'est-ce que ça signifie ceci et cela, et c'est quoi le sens, et c'est à quoi ça fait référence? Non, retenir, laisser courir, laisser agir en soi, ne pas chercher à comprendre ce qu'est cette intuition, mais entrer en elle, devenir l'intuition, la proie qui gambade. C'est comme arriver aux limites d'une clairière dont nul n'a encore jamais passé le seuil. Ne pas chercher à comprendre ce qui a contribué à son apparition. Elle est là, ça suffit. Cela est. Un chant d'oiseau nous invite à y entrer. On s'approche, mais l'entrée ne se donne pas tout de suite. On approche de la feuille de papier, on tourne autour, comme l'astrophysicien tourne autour du Big Bang, cette première clairière, là-bas, matrice du grand commencement, mais qui n'est peut-être, elle aussi, rien d'autre que l'extrémité d'une rumeur qui l'a précédée. Il y a quelque chose de si brûlant, de si joyeusement brûlant, de nous savoir travailler par la rumeur qui approche sans qu'on le sache. Avant que l'épiphanie de sa présence ait lieu, avant que nous la conscientisions, doit s'opérer en nous un tel tissage d'imperceptibles sensations, de pensées, de mémoires, de souvenirs, de rencontres, de lectures hasardeuses, de dépressions, de bonheur, d'ennuis, d'événements terribles, d'événements heureux. L'infinité des combinaisons de tout cela crée le bruissement, il crée la rumeur. En ce sens, nous ne sommes ni innocents, ni vierges. Un neutrino est une particule élémentaire du modèle standard de la physique des particules. Je recommence. Un neutrino est une particule élémentaire du modèle standard de la physique des particules. Alors, il est intéressant de savoir qu'à chaque seconde qui passe, 60 milliards de neutrinos par centimètre carré partent du cœur du Soleil pour 8 minutes et 2 secondes plus tard nous traverser. Alors, regardez votre main, mesurez 1 centimètre par 1 centimètre, comptez une seconde. Eh bien, 60 milliards de neutrinos viennent de passer à travers ce centimètre carré, là. Comme le dit l'astrophysicien Michel Cassé, et en compagnie d'Étienne Parizeau, lui-même spécialiste du rayonnement cosmique, et ils le répéteront tout à l'heure lors du séminaire qui suivra, nous sommes visités déjà dans les ventres de nos mères, et la virginité est donc du domaine des apparences. Qui se doute, là, qui se doute de cette pluie vertigineuse? Qui ressent quelque chose? Qui dit à chaque seconde « Ah, mais tous ces neutrinos qui me traversent !» Ainsi en est-il de ce bruit, de ce qui bruit à notre insu. C'est une pluie sidérale. Nous ne sommes pas innocents. Et c'est de cela dont il est question aujourd'hui, de cette rumeur qui est avant le temps de l'écriture. Or, pour parvenir à évoquer sa physique-chimie, il nous faut nous éloigner un peu d'un langage pour essayer d'entrer dans un autre langage. Nous éloigner d'une pensée qui repose sur la causalité pour nous rapprocher d'une rêverie qui fonctionne plutôt par miroitement, faisant se refléter les uns dans les autres des idées, des phénomènes qui, à première vue, n'ont strictement rien à voir les uns avec les autres. Car c'est du hasard des collisions entre ce qui est différent et éloigné que se fait le maillage atomique au commencement de l'écriture. Ce qui ne doit pas se rencontrer se rencontre. Ce qui ne doit pas s'aimer s'aime. Ce qui ne doit pas faire l'amour fait l'amour. Écrire est en soi toujours une subversion. Mais bon, on ne passe pas d'un langage à un autre en criant « ciseaux ». Une expression québécoise pour dire qu'il ne suffit pas de décréter une chose pour qu'elle advienne. Ce n'est pas parce qu'on hurle « ciseaux » que le fil du ressentiment est coupé. Et si on veut s'éloigner des chemins balisés, on a tout intérêt d'avoir sur soi une carte du territoire dans lequel on est sur le point de nous égarer. Parce qu'on le sait, changer de langage, entrer dans un autre langage, c'est comme entrer dans un territoire. Et ce viendra un moment où le sentier se perdra et se confondra avec la végétation. Alors, de broussaille en broussaille, montant, descendant, on croira toujours retrouver le sentier pour le perdre à nouveau. C'est d'ailleurs cette impression qui nous égare toujours, la certitude que nous ne sommes pas véritablement perdus et au lieu de faire marche arrière, on continue avec la conviction que non, le sentier est tout près, il est juste là, en haut de cette butte, derrière ce monticule, là, j'ai cru le voir entre ces fourrés. Et ce n'est que lorsqu'il est trop tard, au bout de à peu près quelques heures, à tricoter sur le dénivelé d'un paysage, que l'on finit par devoir avouer, sans une certaine honte, qu'on ne sait plus où on est et qu'on est déboussolé, égaré, sans aucun réseau, on ne capte rien, nulle barrette au cadran de son portable, si ce n'est un ironique signe de satellite qui semble nous dire « Alors, Christophe Colomb, tu as découvert l'Amérique ? Ça t'apprendra à te prendre pour un découvreur quand tu n'es qu'un lamentable amateur égaré au milieu de nulle part, à l'image de ta vie, à l'image de ta pensée, à l'image de ton rapport au monde. Suicide-toi !» Bon, alors il faut se calmer et se rappeler que s'il est vrai qu'on est perdu, tout ne l'est pas complètement puisque on a une carte. Alors, humblement, on la déploie, cherchant d'abord à l'orienter, c'est-à-dire à lui trouver son orient, sortir de l'Occident. Étymologiquement, donc, trouver là où la lumière luit, l'orient. Pour cela, pivotant la carte, on tente d'y faire coïncider un point présent sur la carte, facilement identifiable sur le terrain. Clocher, château d'eau, sommet, vallée, bref. Une fois trouvé, s'y diriger obstinément et puis recommencer. Ainsi, un œil dont la théorie topographique qu'on tient entre les mains, et qui est cette carte, et une autre, et un autre dans la réalité du terrain où nous sommes égarés, on ne peut constater que l'écart qu'il y a entre le virtuel que l'on tient entre la main et le réel du terrain. D'où l'importance de l'exactitude de notre carte, car plus cet écart est petit, plus la possibilité de retrouver son chemin est grande. Donc, plus le réel et le virtuel se rapproche l'un de l'autre, plus on voit où l'on va, et quand enfin le réel s'accouple au virtuel, alors un chemin insoupçonné naît. Un chemin dont on ne se doutait pas se révèle à nous, nous offre une épiphanie de l'endroit où nous sommes, qui nous permet la poursuite d'un voyage à ce moment-là véritablement unique. Car c'est toujours ce à quoi nous donnons naissance qui nous guide, et jamais l'inverse. Bien que nous soyons déjà passablement égarés, Nous allons à présent, pour éviter de tomber dans les limbes, tâcher de dessiner la carte topologique de la rumeur, du bruissement, sorte de prolégomène dont le but est d'établir les principes de base sur lesquels vont reposer les 8 leçons qui vont suivre, c'est-à-dire de dessiner la case qui les légende, tout comme est légendée une carte par les symboles graphiques indiquant sentier, route, chemin de fer, fleuve, site touristique, sans oublier l'échelle et la position des nords, géographique et magnétique. Alors, certains de ces principes ont été énoncés lors de la leçon inaugurale, mais je vais prendre le temps de les rappeler de manière, disons, un peu moins déjantée, pour nous éviter justement de nous perdre dans la météorologie tourmentée de cette pensée qui m'habite et dont je me sens parfois n'être que le cerf-volant. Une mise à plat pour nous éviter que l'on se retrouve au milieu des broussailles, même si, je l'avoue, on y est déjà un peu passablement, nous éviter de ne plus comprendre grand-chose ou, et c'est peut-être pire, de comprendre de travers. Cela dit, n'ayant jamais eu ni la nécessité ni l'envie d'expliciter ce qui me régit lorsque j'écris, énoncer ces principes ne va pas de soi, mais il m'est apparu important de le faire, d'essayer du moins, d'autant que les énonçant, eh bien, j'énonce aussi ce que j'entends par la notion de bruissement et de rumeur et leur cheminement jusqu'à leur révélation, objet de cette première leçon. Premier principe, ces leçons ne sont pas un atelier d'écriture. Il ne s'agit pas ici, pour moi, d'enseigner l'écriture, au contraire. Il s'agit d'approfondir cette loi ancienne qui veut qu'il existe des choses qui ne s'enseignent pas. Non seulement qui ne s'enseignent pas, mais qui nous enjoignent de déployer les dispositifs les plus sophistiqués pour abattre toute tentative qui chercherait à les mettre en lumière, elles qui ne peuvent exister que dans l'obscurité. Accepter comme une prémisse que non seulement certaines choses ont pour vocation de demeurer cachées, mais que aussi, dès lors qu'on tente de mettre une méthodologie qui chercherait à les manufacturer pour tirer davantage d'elles, eh bien, le langage aussitôt s'effondre comme un pont au-dessus d'un ravin. Cependant, si on ne peut pas les enseigner, on peut rêver aux raisons qui les rendent intransmissibles. Et cette rêverie pourrait s'avérer au fond beaucoup plus riche et joyeuse que s'il fallait enseigner l'acte de la création. Ainsi, dans la case allégeante de cette carte qui se dessine, nous allons poser 2 symboles pour indiquer 2 axiomes liés à cette notion d'intransmissibilité. Premièrement, l'expérience, c'est-à-dire le savoir-faire, est contraire à la création, qui par définition consiste à faire surgir ce qui n'existe pas, apparaître ce qui ne relève pas du domaine de l'expérience. Créer à partir de l'expérience, ce n'est pas créer, c'est répéter, c'est refaire, c'est faire ce que l'on sait. Créer, c'est faire pour la première fois, à défaut de quoi on tombe dans la dictature de soi-même, on fabrique, petite et moyenne entreprise, on appelle cela le savoir-faire. Idéalement, il faudrait une amnésie qui se souvient, pour demeurer à la fois dans l'ombre permanente, tout en étant conscient. Une obscurité qui est tout le contraire de l'obscurantisme. L'obscurité dit « je sais, mais je ne sais pas comment ». L'obscurantisme dit « je ne veux pas que tu saches ». Deuxième axiome, créer, ce n'est pas communiquer. Au contraire, la communication tue la création. La communication a pour vocation d'éclairer, de nommer, de mettre le soleil à midi, d'écarter l'ombre, la réduire. Or, plus on éclaire, moins on rêve. Plus on communique, moins on crée. Il y a toujours un sacrifice, un choix. La communication dit « je veux que tu saches comme je veux que tu saches ». La création dit « tu es un héros, n'écoute personne, fais comme tu veux ». Et plus le chemin que tu as envie de suivre semble impraticable aux yeux des autres, plus il y a de chances que tu sois sur le tien. À ceux qui te disent « avec raison, tu vois bien que c'est une impasse, que ce n'est pas possible de s'engager là », tu répondras que précisément « c'est ce que l'écriture exige de toi. Contrairement à ce que la raison nous enjoint, en termes d'écriture, nous sommes tenus à l'impossible. » Deuxième principe. Alors, c'est à la fois la pierre angulaire sur laquelle repose le lien que j'ai établi avec l'écriture et la clé de voûte qui fait tenir entre elle et moi l'entente, la promesse que nous nous sommes faites. Ce principe fait en sorte qu'aujourd'hui, je pense comme je pense, j'écris comme j'écris et je vis comme je vis. Je suis aliéné à ce principe. Et tout ce que je dirai ici, tout ce que je dis ailleurs d'ailleurs, ne peut être compris qu'à l'aune de ce principe. On peut le contredire, on peut chercher à le défaire, on peut être en désaccord avec les lois qui le régissent et le trouver stupide. Il faudra pourtant le prendre pour ce qu'il est. Et si on veut comprendre quoi que ce soit à ses leçons, car c'est lui qui me fait penser et agir, et si on me dit qu'il est erroné et que par conséquent tout ce en quoi je crois a la fragilité des pieds d'argile, ben je rétorquerai que toute existence est, de toutes les façons, fondée sur une erreur et que chacun est prisonnier de ses propres délires, j'ai les miens. Ne pas retirer le couteau de la plaie est parfois la seule manière de demeurer en vie. Pour qui veut suivre ces leçons, partant du fait que c'est moi qui les donne, alors il faudra accepter ce principe comme tel pour ce qu'il est, c'est-à-dire une affirmation complètement péremptoire qui décrète unilatéralement que, en termes de création, eh bien, on n'invente rien, on ne crée rien par sa propre volonté, on ne fait rien surgir jamais de son propre néant, ce n'est pas un onanisme, ça vient toujours de l'extérieur, c'est une rencontre, ça vient vers nous, ça nous regarde depuis l'ombre. Ça ne nous appartient pas, nous n'en sommes ni les inventeurs, ni les propriétaires. Il y a cette idée que l'on retrouve parfois dans certains textes qui évoquent le travail d'un peintre, d'un musicien, et qui induisent que l'artiste est une courroie de transmission entre l'art et le spectateur, c'est-à-dire un canal, un pont, comme j'ai dit tout à l'heure, entre l'invisible et le visible. L'image est belle, pleine d'humilité. Je l'ai utilisée tout à l'heure pour aller vite, mais elle ne correspond pas tout à fait à ce que je veux dire. À mes yeux, les choses vont de manière kaléidoscopique. Elles miroitent, et dans ce miroitement, quelque chose nous échappe toujours. On ne sait plus ce qui est un reflet de ce qui est le réel. Et cet égarement est une entité en soi. Quelque chose dans l'ombre, tapis dans l'ombre, nous regarde. Ce qui bruit nous regarde. Cette ombre où le bruissement est tapis se trouve dans une réalité à part, un espace qui n'est pas accessible matériellement, je veux dire par là qu'on ne peut pas s'y rendre avec notre corps. Pourtant, ça nous regarde, on le sent, comme il nous arrive parfois dans un café, dans le métro, dans la rue, de sentir un regard insistant qui nous fait nous retourner. Eh bien, c'est la même chose, quelque chose nous regarde comme l'on dit « ça me regarde, ça ne te regarde pas, ça me regarde, ce ne sont pas tes affaires, ça me regarde ». Et parce que je n'arrive pas à définir ce qui me regarde, alors forcément, ça me hante, mais qu'est-ce qui me regarde? Je n'arrête pas d'y penser, qu'est-ce qui me regarde? Cet espace d'où je suis regardé, il est à la fois en moi et hors de moi. Il est un interstice entre mes perceptions, mes pensées, mes fantasmes, mes rêveries, mes dérives, mes réveils, mon sommeil et les mystères de mes insomnies, et d'où parfois surgit un messager, appelons-le comme on veut, inspiration, ange, muse, qu'importe, mais qui surgit sans qu'on sache exactement pourquoi à ce moment-là, et se présente à nous sous la forme d'une situation narrative. C'est un fragment, il nous tombe dessus. Il rentre chez lui et trouve sa compagne violemment assassinée. Voilà, météorite qui s'abat sans crier gare, c'est un ange, une visitation, une situation narrative, pour nous annoncer qu'on porte depuis très longtemps, un monde dont on ne se doutait pas, que nous avons été en quelque sorte fécondés, à notre insu, par une ombre. Nous sommes enceintes d'une histoire. On n'invente jamais ce qui va donner un sens à notre vie, on n'invente jamais. Au contraire, ce qui va donner un sens vient vers nous, il vient d'avant nous, non pas forcément parce qu'il existe un Dieu ou quoi que ce soit de ce genre, mais parce que l'idée même de notre existence, le fait qu'on existe, l'a fait surgir. C'est un jumeau. C'est pour ça que nous sommes incapables de ne pas espérer, de ne plus espérer. Quelque chose nous a précédés et continue à vivre, quelque chose nous regarde. Quand l'idée nous arrive, ça signifie qu'elle est simplement sortie de l'ombre. Mais elle s'y trouvait déjà depuis tellement longtemps, depuis l'enfance peut-être, depuis avant notre naissance peut-être. Elle est un héritage, une transmission qui nous parvient par le truchement de ce qu'enfant nous avons deviné avant même d'être doué de parole. C'est à ça qu'il faut croire, que je veux croire. Ça travaille en nous mystérieusement. Et ça arrive à notre conscience comme un ange qui surgit au milieu de la chambre. Alors bon, cette idée où un ange apparaît dans la chambre d'une vierge pour lui annoncer qu'elle porte en elle un dieu, évidemment, ça rappelle vaguement un truc. Mais on peut aussi, au lieu du mot dieu, on peut dire le mot histoire. Un ange apparaît dans la chambre d'une vierge pour lui annoncer qu'elle porte en elle une histoire, un récit, un spectacle, une musique. Bah déjà, c'est un peu différent. L'essentiel donc de ce principe est que l'histoire, la fiction que l'on va écrire, nous précède. On ne l'invente pas, elle est déjà là, on la rencontre, mais sans l'annonce qui nous l'amène à la conscience, on ne peut pas la faire naître. Dans la septième leçon, je reviendrai sur cette idée de naissance et on verra le retournement extraordinaire qui s'opère entre ce que nous portons et comment, à mesure qu'avance la création, on devient porté par ce que nous portions. Et qu'au jour de la naissance, c'est davantage nous qui naissons de ce que nous avons porté plutôt que le contraire. On ne met pas au monde un spectacle au jour de la première. C'est lui qui nous met au monde, c'est lui qui nous accouche. La mère porte l'enfant jusqu'à son terme, mais quand naît l'enfant, naît aussi la mère qu'elle devient. Ce principe affirme donc que nous n'inventons pas ce que nous portons, mais que, au contraire, ce qu'on n'a pas inventé, eh bien, s'invente en nous, justement, parce qu'on n'a pas conscience de sa présence. Troisième principe. Celui-ci découle du précédent. Il en est la conséquence logique. Il en est aussi, d'une certaine manière, l'éthique. Si l'on part du principe qu'on n'invente rien à partir de son propre néant et que quelque chose extérieur à nous nous visite, on peut donc dire que nous n'en sommes pas propriétaires. Ça ne nous appartient pas, ce n'est pas à nous. Affirmer le contraire est un choix tout à fait envisageable. Mais ce choix a pour conséquence de s'engager dans un autre sentier, d'aller donc vers d'autres paysages. C'est emprunter une autre carte et avoir une case à légende différente. Être propriétaire, ce n'est pas la même chose qu'être locataire. Et le langage dont use un propriétaire n'est pas celui dont use un locataire. Or, on le sait, le langage sculpte l'esprit. Notre manière de parler, la langue avec laquelle nous écrivons, qu'elle soit maternelle ou non, nous cortique, nous façonne. Dire donc régulièrement, et sans même plus y penser, mon écriture, mes personnages, mon œuvre, mes romans, ne sculpte pas l'esprit de la même façon que si l'on dit la manière avec laquelle j'écris, les personnages que j'essaye de comprendre, les romans sur lesquels je travaille, etc., etc. Ce n'est pas la même chose de dire mon spectacle que de dire le spectacle sur lequel je travaille. Ça peut vraiment paraître ridicule, mais à force, grain par grain, jour après jour, à force de dire « elle » au lieu de « ma », eh bien, on se dissocie petit à petit de l'écriture. Il y a « elle » et il y a « moi ». Quand je dis « mon écriture », il n'y a que « moi ». En donnant son existence propre à l'écriture, on passe par le langage d'un aplat où l'on est seul à une tridimensionnalité où on est plusieurs. « Elle »,« lui » et « moi ». Le spectacle, l'écriture et « moi ». Alors, on peut discuter. Moi, je peux discuter avec le spectacle, voilà. Le spectacle peut discuter avec l'écriture. L'écriture, on peut discuter ensemble. On peut même s'écrire des lettres. Si on rajoute à cela, en plus, les personnages du spectacle et qu'on dit « eux » au lieu de dire « mais », alors tout à coup, vous imaginez, il y a une foule autour de la table de travail. Une profondeur différente apparaît dès lors qu'on ne dit plus « mon, ma, mais », mais qu'on emploie à déployer le langage pour offrir à l'écriture une autonomie. Bien sûr, dans la vie de tous les jours, on dit mon ami, ma compagne, mon compagnon, mon enfant, mais l'ami, la compagne, le compagnon, l'enfant, à moins que nous soyons schizophrènes, sont des individus qui existent dans la même réalité physique que la nôtre et dont on voit le corps. Et je n'ai pas besoin d'aller très loin, sauf à être dévoré par le besoin d'écraser les autres, pour me souvenir que si je dis mon fils, cela ne signifie pas qu'il est ma propriété. Partageant le même univers, la physicalité, la réalité nous protège. Et nous avons les uns par rapport aux autres une autonomie propre qui va de soi et qui est aisément perceptible. Contrevenir à l'intégrité du corps de l'autre crée des cataclysmes effroyables, condamnables avec la plus grande sévérité. Mais ce qui vient de l'imaginaire, ce qui sort de l'invisible, qui n'a pas de corps, celui-là, il n'a aucun moyen de défense contre nous. Aucune possibilité de nous opposer en refus, le consentement. On en fait notre propriété comme ça nous chante. Et il n'a pas un mot à dire, on devient Dieu. La manière de le protéger passe par le langage. En ce sens, se départir des prénoms personnels, mon, ma, mais, dissocier ces petits mots de ces figures évanescentes nous force à ne plus voir les personnages comme choses, parler d'eux à la troisième personne comme des gens qui existent mais qui ne sont pas présents, offre la possibilité de les décloisonner et d'engager avec eux une histoire, une relation, un compagnonnage qui ne s'arrête pas une fois l'œuvre terminée, mais se poursuit exactement comme se poursuit une histoire d'amour avec un visage dont la beauté nous a à tout jamais chaviré. Alors, pour parler du troisième principe, j'aimerais passer par un détour. Long détour. Labyrinthe est un mot à multiples consonances. labyrinthe renvoie à la honte, puisque c'est la honte qui a perverti son invention. Pasiphae, la lumineuse, revenue de son attirance pour l'animal sous la forme de laquelle Zeus avait enlevé Europe, mère de Minos, époux de cette même Pasiphae, elle mit au monde, donc, Pasiphae, Astérion, mi-homme, mi-taureau, plus connu sous le nom de Minotaure. La civilisation minoenne, d'après les récits qui nous sont parvenus, ne semble pas avoir été choquée outre mesure par le surgissement de cet être mutant. La question consistait davantage à savoir comment cadrer cette créature plutôt que d'épiloguer sur les pulsions et les déviances responsables de son existence. C'était un caprice de la reine dont était né un enfant étrange, porteur des douleurs du passé, symbole d'une époque révolue. Alors pourquoi douleur et quelle époque ? Bien parce que l'enlèvement d'Europe signe un basculement important dans l'histoire du monde. Dans sa légende, l'enlèvement d'Europe est donné de cette manière. Une jeune fille joue sur une plage au Finistère septentrional de l'Asie, c'est-à-dire au rivage de Sidon, en Phénicie, le Liban actuel. Nous allions souvent pique-niquer avec mes parents quand j'étais petit. Aujourd'hui, toute cette zone a été réduite en cendres par la guerre civile et ce qui en restait, les derniers bombardements israéliens l'ont définitivement effacé. À l'époque, c'était encore une magnifique plage. Et cette jeune fille y joue, seule ou avec ses compagnes, l'histoire ne le dit pas. En tout cas, c'est Europe, Europe aux grands yeux, fille d'Agénor, roi de Phénicie. Et soudain, voici qu'elle aperçoit un grand taureau blanc sortir de la mer. C'est Zeus, déguisé en animal, attiré par la beauté de la jeune fille. Europe ne le reconnaît pas. Troublée, elle le laisse venir vers elle. Il est magique. Hypnotisée par sa puissance, Europe s'approche de la crinière du taureau et l'enfourche. L'érotisme de l'événement provoque un tel choc chez le dieu que celui-ci se rue vers la mer, fend les flots et, poussé par Éole, déesse du vent, Zeus s'éloigne, emportant à tout jamais Europe loin de sa terre natale. C'est l'enlèvement d'Europe l'Asiatique, entraînée vers cette terre d'en face à laquelle elle finira par donner son nom, Europe. Ainsi fut raconté le mythe. Mais derrière chaque mythe, il y a l'histoire des hommes. Et dans le labyrinthe des soubassements des hommes, il y a toujours une traîtrise, un tabou, une monstruosité. Ainsi, il est permis d'imaginer que l'apparition de cette légende fait suite à une invasion des terres asiatiques par les Grecs et que, procédant au pillage habituel dans la région de Sidon, qui était un port commercial de premier plan, ils procédèrent aussi à des rapts et des viols qui ont dû traumatiser l'époque, faisant preuve d'une violence encore jamais vue, prémisse à des violences nouvelles. Dans un ouvrage paru en 2007, et dont je vous recommande très vivement la lecture, « Le viol d'Europe ou le féminin bafoué », Françoise Gange y voit dans ce mythe la bascule qui a fait sortir l'Occident de son lien à la déesse Terre pour le faire entrer dans celui de la domination masculine et son institutionnalisation dans le ministère de la violence, qui veut qu'une guerre n'ait jamais gagnée tant que les femmes n'ont pas été violées et enlevées. Et c'est peut-être de cet effondrement qu'hérite Astérion, dont il est le symbole, de la mémoire de cette bascule, nostalgie de l'avant, qu'il exprimera en exigeant comme nourriture les corps de jeunes filles, de jeunes garçons, rations de viol et de meurtre doublées de l'acte de cannibalisme. On dira alors que c'était une époque vraiment effroyable et barbare, que ça ne rigolait pas chez les Grecs, comme ça ne rigolait pas non plus chez les Romains, et certains rochers auvergnats ont encore en mémoire ces journées où, après la défaite de Vercingétorix, les soldats romains tranchèrent à hauteur du poignet la main droite de tous les hommes gaulois en âge de tenir une épée. Terrible barbarie, mais un regard à peine attentif suffira pour nous montrer qu'en termes de barbarie, Sabra et Shatila, le Rwanda, Boutcha, le 7 octobre, pour ne citer que ces horreurs, nous permettent de tenir la dragée haute quant à la bestialité des barbaries d'autrefois. Bref, on connaît l'histoire. Dédale, l'architecte, s'ingénia à bâtir une prison vertigineuse pour y tenir captif le Minotaure, le labyrinthe. Que nous raconte ce labyrinthe ? Il nous dit qu'il y a bien et bien un chemin pour y entrer, et pour en sortir, mais que ce chemin est à ce point détourné, dévié, en une infinité de possibilités, sans carte nulle part, ni image vue de haut, avec des murs si épais qu'aucun réseau GPS ne peut espérer passer, qu'on est condamné à tourner indéfiniment en rond. Pas besoin de garde pour surveiller l'entrée. Le labyrinthe symbolise donc l'idée de secret, contrairement au mystère, où il n'existe pas de réponse à la question, où aucun chemin n'existe, ni pour entrer, ni pour sortir. Le secret nous dit qu'il existe une réponse à la question, mais que cette réponse est cachée. Pourquoi le mal existe ? C'est un mystère, puisqu'il n'existe pas une réponse tenue cachée. Quelle est la composition du Coca-Cola ? C'est un secret. La recette existe, mais elle n'est pas donnée. Elle n'est pas indiquée, elle est cachée. Mais ce n'est pas parce qu'elle est cachée qu'elle n'existe pas, elle existe, mais quelque chose refuse de nous la donner. Prenons une mouche. Une mouche se cognant obstinément contre la vitre. C'est agaçant. Parce qu'on sait, nous qui la regardons, que ce manège peut durer longtemps et des heures. Elle se cogne contre un secret. Mais la mouche ne peut en aucun cas concevoir la notion de vitre. Elle ne peut pas comprendre, elle ne peut pas conceptualiser ce rien contre lequel elle se cogne obstinément. Elle ne comprend pas le phénomène. Il n'y a rien et pourtant je me cogne. Alors elle insiste, on aurait envie de lui dire « Mais arrête, arrête d'insister, arrête, 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 tu vois bien que ce n'est pas possible, arrête, arrête de ressasser, arrête, arrête de ressasser ton malheur, tu vois bien qu'elle ne t'aime plus, arrête, arrête, elle ne t'aime plus, décroche, cesse de touiller ton malheur, ne cherche pas à la comprendre, c'est fini, c'est tout, c'est au-delà de toi, tu dois juste accepter, elle ne t'aime plus, tu dois la respecter pour ça, non, ne l'appelle pas, ne cherche pas à la revoir, c'est fini, la fenêtre est peut-être ouverte juste à côté, mais la capacité à raisonner dont la mouche est dotée ne lui permet pas de seulement se figurer qu'il faille juste se détourner de quelques degrés hein, de son entêtement pour déplacer légèrement l'axe de son obsession et elle pourra alors retrouver la sortie. Mais non, elle insiste et ressasse et refait toujours le même circuit qui se termine toujours contre la vitre, obstinément. Eh bien, ainsi en est-il de ce labyrinthe dans la vis terrible du Minotaure. L'architecture de la prison est au-delà des capacités d'extrapolation de la créature, de sorte que celle-ci ne peut pas sortir de son obsession, de son ressassement. Elle reste incapable de percer le secret et tourne en rond. Mais alors la honte, eh bien, dans Les noces de Cadmos et Harmonie, ouvrage majeur dans lequel Roberto Calasso raconte à sa manière les grands mythes grecs, on trouve cette idée qu'en sa première version, Dédale avait pensé le labyrinthe à ciel ouvert. En effet, il n'y avait aucune raison d'être cruel contre le Minotaure, il s'agit seulement de le tenir enfermé, pas de le priver de la lumière. Mais, toujours selon Calasso, lorsqu'arriva en Crète le premier étranger, sous la figure de Thésée, on ressentit un sentiment nouveau. Que va penser l'étranger de cette dislocation qu'est le Minotaure ? On éprouva alors une gêne, on évita d'en parler, on découvrait le silence qui tait. Et de ce silence qui tait, la nécessité de cacher, d'invisibiliser la faute, de se sentir tous responsables de cette faute, celle de Pasiphaé, invisibiliser la déviance, on découvrit la honte. Et la honte poussa à l'occultation du labyrinthe en lui fabriquant un toit, privant à jamais le Minotaure de la lumière du jour. Les ténèbres firent alors de lui le monstre qui n'était pas encore tout à fait. S'engager dans un labyrinthe, c'est donc retrouver de manière archaïque, cervicalement parlant reptilienne, le chemin obscur de la honte. Il suffit pour en faire l'expérience de se rendre un vendredi, à peu près tous les vendredis, à la cathédrale de Chartres. Il y a dessiné au sol un labyrinthe dans lequel il est possible de s'engager. Chacun a le loisir de marcher son présent. En effet, le long de ce chemin unicursal, c'est-à-dire où il est absolument impossible de se perdre, c'est un labyrinthe où il n'y a qu'un seul chemin, sans ramification ni choix possible. Donc, tricotant, zigzagant, allant, venant, on marche dans les incertitudes de sa propre pensée. Et s'il fallait le faire en compagnie d'un être cher, ami, père, mère, fille, fils, sœur, frère, amant, conjoint, collègue, marchant l'un derrière l'autre, le labyrinthe, en ses décentrements et excentricités, crée des éloignements soudains et des rapprochements tout aussi brusques que bouleversants. En un instant seulement, on s'éloigne et on se rapproche. On se retrouve alors à marcher au présent sa propre histoire. On marche la relation qu'on a avec l'autre. Marchant ainsi, allant d'un point à l'autre, le long d'une ligne qui traduit le chemin intérieur, cela nous permet de voir tourner le monde et au monde de nous voir tourner. C'est comme se retrouver à la fois dans une vision héliocentriste et géocentriste en même temps. Or, ce vertige du déplacement est précisément le vertige de l'exilé, de celui qui est chassé de sa terre. L'exilé est celui qui avance sans cesse, même s'il s'installe à demeure. L'exilé est toujours en chemin, et tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il fait, il le fait le long de ce fil qui serpente et que l'on nomme le labyrinthe. L'exil est une honte. Malgré la richesse des pays, des paysages que l'on découvre, des rencontres, on n'oublie pas l'humiliation du départ, quand on a été chassé, forcé à partir. L'entrée dans le labyrinthe, en quelque sorte, l'entrée dans ce silence qui tait, la honte. Quelque chose nous a jetés dans un exil permanent. Marcher symboliquement cet exil nous fait toucher imperceptiblement à cette honte des déplacés, de ceux qui ont dû fuir, qui ont dû tout abandonner derrière eux. On se déplace et on déplace avec nous le sens mystérieux qui nous habite. On le porte sur notre dos, on déplace le sens, déplacement du sens, de sa propre identité, déplacement de sens, déplacement de sens. Alors, pour qui va quelquefois en Grèce et finit par déchiffrer l'alphabet, il peut être étonné de voir passer très régulièrement sur les routes des autoroutes grecques des camions sur lesquels est inscrit en très grand le mot « métaphora ». Des camions de métaphores. Et il y en a plein en Grèce. Qu'est-ce à dire ? Des caisses et des caisses de métaphores entre Athènes et Thessalonique ? Il suffit de poser la question au premier chauffeur de taxi pour qu'il vous explique que, bah non, ce sont simplement des camions de déménagement. Métaphora veut dire déménagement, tout simplement. Ce sont les déménageurs bretons, en quelque sorte. La métaphore n'est rien d'autre qu'un bête déménagement. Pour dire une chose, on en dit une autre. On prend un sens et on le déménage vers un autre. Déménagement de meubles ou déménagement de sens, ça reste un déménagement. Or, s'il est vrai, comme on l'a dit, que le langage est toujours un reflet de notre manière de vivre, alors pour qui n'a cessé de déménager ? Pour cause de guerre, d'exil multiple, de perte de langue maternelle ? Et autre raison allant du plus simple au plus complexe, pour qui a fait de l'acte de déménager une récurrence de son déplacement, collectionnant les nationalités, collectionnant les passeports, collectionnant un nombre incalculable de clés d'appartement, additionnant feuille par feuille la honte et l'humiliation de ses départs incessants, il est normal que, au bout du compte, le déménagement finisse par entrer dans le système de sa propre langue et que, devant parler, il recourt lui-même à cette méthode, celle du déménagement, donc de la métaphore. Et, déménageant le sens d'un état à un autre, suivant un chemin tortueux, le langage, son langage, devenant labyrinthe, il devient aussi la surface de la honte qui sous-tend chaque instant de son existence. Parler, c'est de dire toujours la honte. Et que, ayant perdu l'usage de sa langue maternelle, il se voit dans l'incapacité, pour quoi que ce soit, de parler en ligne droite. Il doit toujours passer par des détours, des changements de paysage pour arriver à se faire comprendre. Pour se comprendre lui-même, d'ailleurs. On peut appeler ça des arabesques. Métaphore, détour, circularité de la pensée, spirale de l'esprit. De déménagement en métaphore, il finit par déployer une langue faite de briques et de brocs où tout est image, se déplaçant d'un sens à l'autre. Or, les raisons de ce déménagement, exil, fuite, reposent sur des humiliations qui viennent de ce que la guerre civile peut produire de plus visqueux. Alors très très vite, la honte, s'alliant à la métaphore, au déménagement, au langage dévié de cet individu, on retrouve l'image du labyrinthe et du minotaure qu'il faut cacher. Tout se détourne. Pour dire ce que vous avez sans doute déjà remarqué, incapable de parler en ligne droite, je ne parle qu'en métaphore. Mais ce n'est pas un choix. C'est que j'ai trop déménagé pour pouvoir parler autrement. Ainsi, il faut se souvenir que le moyen de la métaphore qui sera utilisé tout au long des 8 leçons non seulement traduit une incapacité à parler en ligne droite, mais rappelle que tout ce qui sera raconté a son corollaire qui est la honte. Écrire, c'est éviter de se noyer dans la honte. C'est retarder le moment où les sables mouvants de la honte vont entraîner celui qui y est piégé. Dans le combat pour empêcher la honte de dévorer l'esprit, les images et les mots agissent comme fil d'Ariane. Ils agissent comme possibilité de sortir l'esprit de l'opacité du silence, ce silence qui tait. Quatrième principe. Tout est écriture. Tout, absolument tout, s'ouvrir à ce tout. En ce sens, on pourrait, à juste titre, s'étonner de ce que les séminaires qui suivront, les leçons telles qu'elles sont annoncées, mis à part le dernier et d'une certaine manière le second, ne font pas appel à des artistes. La raison pour laquelle j'ai fait le choix d'inviter autant des astrophysiciens que des entomologistes, que des sociologues ou des historiens, ou encore des restaurateurs de peinture, c'est parce que précisément, je ne dois pas m'enfermer avec moi-même. L'écriture, telle que je l'aime, part du principe que l'unité est une addition des altérités, comme le blanc est l'addition de l'ensemble des couleurs. Mettre à plat l'unité en séparant les altérités qui la composent a pour but de procéder à une forme de dissection telle que les peintres de la Renaissance ont ressenti le besoin de le faire en disséquant les cadavres pour être en mesure de rendre compte des mouvements et des énergies des corps humains qu'ils allaient représenter. Car comment peindre une descente de la croix si l'on ne sait pas comment les muscles s'attachent à leurs ligaments ? Il s'agissait donc de procéder à la même chose ici et faire de sorte que l'ensemble de ces leçons prennent l'apparence d'une leçon d'anatomie où il sera question de disséquer, de séparer, d'analyser méthodiquement les différentes parties d'un corps organisé que sont les principes de l'écriture tels que je la pratique. J'insiste là-dessus, tels que je la pratique. C'est une démarche absolument personnelle. Un autre écrivain vit les choses d'une manière totalement différente et tout aussi personnelle. Et si je dis que, pour ce qui me concerne, tout est écriture, alors il s'agira de mettre à plat les divers éléments de ce tout, comprendre ce qui éveille la curiosité, ce qui éveille l'étonnement, la naïveté, la joie, bref, ce qui est nécessaire pour faire survenir la rencontre. Pour mieux raconter cela, suivant l'inclinaison du principe précédent qui veut que rien ne soit possible sans la métaphore, je vais user de l'une d'elles pour essayer de bien me faire comprendre lorsque je dis que tout est écriture. Il arrive qu'on trouve dans la rue une pièce de puzzle. Peut-être que ça vous arrive. Tombée d'une poche, d'un sac, on se dit, tiens, une pièce de puzzle. Comment savoir ? Comment savoir d'où ça vient ? Alors, prenons une période théorique, l'année 2024. Supposons que le jeudi 1er février de cette année, à Naples, on trouve une pièce de puzzle dans une ruelle de cette ville. On la ramasse, on l'observe. La pièce est trop petite pour permettre de voir l'image à laquelle appartient ce petit morceau. On perçoit des couleurs, on perçoit des teintes, on l'observe à la loupe. On peut deviner peut-être une végétation. Si on a de la chance, un fragment de visage, oreille, mais rien de plus. On le conserve dans une petite boîte. Pièce numéro 1. Quelques mois plus tard, disons le lundi 13 mai, à Stockholm, au détour d'un boulevard, sur le pas d'une maison, on trouve à nouveau une pièce de puzzle. Alors, dans la réalité et les statistiques du banal, dans lequel nous vivons au quotidien, il est évident que les deux pièces de puzzle n'appartiennent pas au même jeu et donc ne participent pas à la même image. Deux pièces différentes, de deux puzzles différents. Bien. Sautons un mois et voilà que le mercredi 19 juin, et puis le dimanche 22 septembre, et le samedi 2 novembre, et pourquoi pas le dimanche 1er janvier de la nouvelle année, à Besançon, Marrakech, Montréal ou Calcutta, on trouve ces jours-là d'autres pièces que l'on numérote méthodiquement et que l'on met dans la boîte. Il faut être légèrement délirant, pour ne pas dire complètement idiot, pour penser autre chose qu'on a juste trouvé des morceaux de puzzle dans des pays et des villes différents et qu'on fond, mis à part l'étrangeté de trouver des pièces de puzzle, comment sont-elles arrivées là, il n'y a rien de vraiment exceptionnel. À l'heure de pointe, sur le RER A, en direction de Boissy-Saint-Léger, il y a très 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 peu de chances que par le plus grand des hasards, tous les voyageurs qui se tiennent avec nous en sardine dans le wagon descendent à Fontenay-sous-Bois, nous laissant absolument seuls. Il est très peu probable qu'une chose pareille arrive. Mais il existe une probabilité qu'elle puisse arriver. Par le plus grand des hasards, on s'est retrouvé qu'avec des passagers qui vivent à Fontenay-sous-Bois. Eux-mêmes ne le savaient pas, tous sauf nous. Alors théoriquement, cette possibilité existe. Elle est improbable, mais elle existe. La découverte de la mécanique quantique nous a fait passer d'une physique newtonienne construite sur l'idée de certitude à celle d'incertitude. Et si tous les voyageurs du RER A en direction de Boissy-Saint-Léger peuvent, par le plus grand des hasards, descendre à Fontenay-sous-Bois, il est donc possible de penser, d'imaginer, de jouer, de rêver, de faire semblant, de croire, pourquoi pas, bref, de verser dans un réel autre qui stipule que tous ces morceaux trouvés aux quatre coins du monde, par le plus grand des hasards, appartiennent à la même image et que cette image précise est celle qui montre l'indicible de la honte que nous portons en nous et qui attend d'être nommée, d'être dite. Dès lors, partant du principe que toutes les pièces de puzzle trouvées, qu'importe en quelle ville ou en quelle date, qu'importe leur forme et leur couleur, appartiennent à la même image, il ne nous reste plus qu'à les reconstituer en imbriquant les pièces les unes dans les autres. On arrivera alors à une image unique, abstraite sans doute, mais libérée d'un sens unique. On entre ainsi dans une relation aux choses où tout bruit, tout murmure, où la rumeur enfin devient perceptible, celle de la honte cachée qu'il faudra bien raconter pour en montrer la figure. Toutes les pièces de puzzle appartiennent à la même image, toutes, à une seule image. Tout ce qui est trouvé devient donc écriture. tout est écriture, car tout ce qui est rencontré n'est qu'une illusion, une apparence, et que les choses cachées, sous-jacentes, sont reliées par l'esprit de celui qui rêve. Celui qui rêve n'a qu'à imbriquer ensemble toutes les sensations, perceptions, compréhensions, émotions, intellections qu'il rencontre comme autant de pièces appartenant à la même composition. Tout est écriture. Enfin, à présent, sans compter qu'on retrouve cette tendance dans les titres de deux spectacles que j'ai écrits, mis en scène et dans lesquels j'ai joué, à savoir « Inflammation du verbe vivre » en 2015 et « Racine carrée du verbe être » en 2022, j'aimerais m'expliquer sur les raisons qui m'ont donné envie de penser les titres des leçons à partir d'un verbe à chaque fois différent. Cette fascination pour les verbes est facile à mesurer dès lors que l'on comprend la difficulté à laquelle on est confronté quand on doit apprendre à parler et écrire une langue dans laquelle on trouve la notion d'infinitif, quand cette notion est absente de notre langue maternelle, surtout lorsqu'on est enfant. C'est ce qui est advenu pour moi entre l'arabe et le français. Encore aujourd'hui, le mot infinitif est une abstraction. Je n'arrive pas à comprendre ce que ça signifie. Dans infinitif, j'entends encore, comme à l'époque où j'apprenais le français, enfant, j'entends infini, tout en sachant que ce n'est pas de ça dont il est question. J'entends aussi finitif, c'est-à-dire vaguement la notion d'inachèvement. Infinitif m'a toujours donné l'impression que quelque chose n'était pas finitif. Mais qu'est-ce que ça veut dire, finitif ? En arabe, l'infinitif n'existe pas. Il est impossible de dire un verbe sans le conjuguer. C'est-à-dire qu'en arabe, l'action entre aussitôt en action. Et qui plus est, dans l'arabe vernaculaire, celui de la rue, qu'on pourrait nommer, pour mon cas, le libanais. Par exemple, être ou ne pas être, telle est la question, se traduira au mieux par existence ou néant, telle est la question. Ou bien qu'on soit ou qu'on ne soit pas, telle est la question. Il en va de même pour tous les verbes. Manger ne se dit pas en arabe. Il faut absolument le conjuguer. Je mange. Or, qu'est-ce que ça veut dire conjuguer un verbe ? Eh bien, c'est nécessairement le rendre actif. C'est de l'inscrire dans le temps et l'associer à un sujet. Si je dis « jouer », on ne sait pas de qui il s'agit ni quand. Mais si je dis « je jouerai », aussitôt s'ouvre à l'esprit un espace où l'on voit quelqu'un, moi en l'occurrence, qui n'a pas joué, qui ne joue pas, mais qui jouera, je jouerai. Or, cette idée de conjugaison est une idée que l'on peut extrapoler pour la voir comme un lien qui existe entre l'infinitif d'une chose et sa mise en action. L'électricité conjugue le filament de l'ampoule, alors elle s'allume. Conjuguer, c'est passer de l'inerte au mouvement. Il m'arrive souvent de rappeler aux acteurs avec lesquels je travaille que le texte que je leur mets entre les mains est à l'infinitif et qu'ils ont le devoir donc de le conjuguer par leur énergie, leur esprit, leur âme, leur intelligence, leur vaillance pour qu'ils s'allument. La manière de conjuguer un texte de théâtre met en lien directement le texte avec l'âme, l'esprit de l'acteur. C'est ce qui fera que deux comédiens disant le même texte avec le même rythme et la même diction feront ressentir de choses totalement différentes parce que c'est leur être qui conjugue le texte. Ce n'est pas qu'une technique, et on a besoin de la profondeur, on a besoin du mystère de l'être pour que le texte s'éclaire. C'est paradoxal. Sans le mystère, rien n'est compréhensible. Il s'agit donc de comprendre ce dont il est question dans un texte, de faire sien, le porter en soi, l'articuler, le conjuguer pour qu'il passe de l'inerte, de l'infinitif, au mouvement de l'action. Tout ce qui est à l'infinitif est posé en attente, attend le souffle de la vie. Le pianiste conjugue la partition. Qu'est-ce qu'un couple qui ressent une atonie dans son histoire et cherche à lui donner un souffle nouveau, si ce n'est un couple qui cherche à éviter d'être avalé par l'infinitif de son histoire d'amour ? La conjugaison est une animation. Si l'on se pose la question de l'infinitif que nous avons à conjuguer pour rendre actif un lien, que ce soit en amour, en amitié, que ce soit pour faire entendre un texte, pour redonner un élan nouveau à un travail, une relation nouvelle avec des collègues, ça signifie qu'on tient à ce qu'on veut conjuguer. Sinon, on le laisserait à l'infinitif. C'est important à nos yeux. On ne veut pas que ça meure. On ressent aussitôt ce que peut signifier le mot « implication ». Conjuguer, c'est s'impliquer, c'est entrer dans le pli, c'est vouloir que ça reste vivant. Si l'infinitif est cet instant de pause, de décrochage, d'absence dans les transports en commun où l'on s'extrait du rapport à l'autre, d'autant plus que la rame de 17h25 du RER A en direction de Boissy-Saint-Léger, qui n'a pas la chance de voir tout le monde descendre par le plus grand des hasards à Fontenay-sous-Bois, veut qu'on soit à ce point serré qu'on est en mesure de scruter les amygdales de nos voisins, alors on peut en effet comprendre qu'on veuille décrocher. On peut alors voir nos journées, nos vies, comme un enchaînement entre conjugaison de certains verbes et infinitif d'autres verbes. Mais là où la question prend une mesure différente, pour ne pas dire vertigineuse, c'est lorsqu'on se pose la question « Et moi ?» Alors, de qui suis-je l'infinitif ou de quoi ? Si le pianiste conjugue l'infinitif du piano, qui conjugue l'infinitif du pianiste ? Qu'est-ce qui me conjugue, moi ? Qu'est-ce qui m'habite au point de me mettre en mouvement ? Si je suis l'ampoule, c'est quoi mon électricité ? Qu'est-ce qui me permet de savoir enfin quand et qui ? Qu'est-ce qui me permet de comprendre qu'en cet instant, si je me lève et que je dis « nous allons à présent commencer », c'est que depuis la nuit des temps, quelque chose d'essentiel a commencé pour moi. Un bruissement, une rumeur, une aurore qui mettra des années avant d'arriver à ma conscience. Écrire, c'est avoir la conviction que nous sommes conjugués, sans arrêt, par quelque chose qui nous aime. Quelque chose qui nous aime et qui vient vers nous, il nous conjugue. Pour certains, c'est l'écriture, c'est-à-dire une forme nouvelle d'expression dans le désir du partage, du récit. Les verbes à l'infinitif, associés à chaque leçon, posent donc la question de ce qui peut créer leur mise en mouvement, c'est-à-dire ce qui peut participer à leur conjugaison, leur donner la vie. Donc, pour résumer, à la case des légendes, les choses commencent bien avant qu'elles ne commencent. Créer ne s'enseigne pas. L'expérience encombre l'écriture. Communiquer n'est pas créer. Je ne suis pas propriétaire, je suis locataire. La métaphore comme mode de langage, car l'exil a été mon fardeau. Tout est écriture. Toutes les pièces de puzzle s'imbriquent les unes dans les autres. Il existe une chance sur des milliards que tous les passagers descendent en même temps à Fontenay-sous-Bois. Ainsi donc va la légende qui illustre la carte du territoire où je me suis engagé. C'est à chaque jour. Le rôle qui est le mien consiste à déployer toutes les antennes pour être en mesure de capter les symptômes. En ce sens, on est toujours en train d'écrire. On ne s'endort jamais. On est toujours aux aguets. Pas d'infinitif, ou le moins possible. Recevoir un signal, un neutrino arrivant depuis le soleil. Déployer les capteurs à chaque instant, à la boulangerie, dans l'autobus, lors d'un repas avec des amis, lors d'un conseil d'administration, chez le médecin, le dentiste, tout le temps, toujours, tout est matière. Et de cette matière peut se faire entendre un signal de ce qui, depuis longtemps, chemine pour venir jusqu'à nous. Entrez alors dans une papeterie pour acheter un cahier. Y notez tous les symptômes que l'on perçoit, tout ce qui, sans raison, sans lien, éveille l'intérêt, nous met aux aguets. Chaque symptôme comme pièce d'un puzzle dont nous ne connaissons ni l'image ni la grandeur. Avancer dans cette confiance et se voir non pas comme la matrice, comme celui qui est fécondé pour porter une œuvre à venir, mais au contraire comme la vie qui apparaît. L'œuvre, l'idée, le spectacle, le roman, l'écriture tombent enceintes de nous. C'est nous qui sommes dans le ventre. C'est pourquoi nous sommes aveugles et tout est aveugle. On n'y voit rien, on entend des sons, on a des sensations, nous sommes des embryons. Mais l'écriture nous porte, elle nous porte. On est dans son ventre, relié au cordon ombilical de la langue. La langue qui est le fil d'Ariane dans le labyrinthe des symptômes et des sensations. Alors avancez jour après jour, comme l'embryon vers le battement de son cœur, puis vers la lumière. Et enfin, le cri qui est, comme à chaque fois, celui de la colère à l'épiphanie du verbe être. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.